Elimande ke sankoron desende kelando dunza kanda ke alanando kuza kanda kele kelando du kele kizai. Father, we praise you this morning. Nous te disons merci ce matin, notre Dieu. Nous te disons merci ce matin, notre Père, pour cette vision que tu as libérée sur ton église. La capacité de voir l'invisible, la capacité de saisir ce qui n'est pas encore manifeste dans le naturel et de l'amener du surnaturel à manifester dans le naturel, de l'amener par le surnaturel du monde spirituel pour l'amener à se manifester dans le monde physique. Seigneur, nous sommes en accord avec toi. En harmonie avec toi, en symbiose avec toi, fonctionnant comme Jésus sur la terre. Tu as dit que la lumière soit, parce que tu as vu la lumière, alors qu'elle n'était pas encore manifeste. Tu l'as vu et tu l'as déclaré. Tu l'as vu et tu as imposé son existence sur ce qui existait. Et ce qui existait a laissé à ce que tu as appelé à l'existence. Seigneur notre Dieu, nous sommes persuadés que toi qui donnes la vie à la mort, qui a donné la vie au corps mort d'Abraham, c'est comme ça que tu fonctionnes. Amen. Tu donnes toujours la vie. Amen. Tu ne constates pas s'il y a ou non vie, tu donnes la vie. Tu libères la vie. Et nous te remercions parce que nous avons la même capacité que toi d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans le naturel, qui existe dans le monde spirituel de Dieu, et de faire en sorte que ce que nous voyons et ce que nous déclarons vienne et on déplace et enlève ce qui existe pour prendre complètement sa place. Amen. Seigneur, nous te remercions pour cette capacité que tu nous as donnée. Alléluia. Nous allons nous y employer. Nous allons laisser nos langues concorder avec ta pensée. Et non pas avec ce qui est visible, mais nous allons appeler à l'existence. Amen. Ce qui n'existe pas dans le naturel, mais qui a déjà été décrété par Dieu, déclaré par Dieu, libéré par Dieu, parce que nous sommes des agents de changement. Dans le nom puissant de Jésus, amen. Merci Seigneur pour ta grâce sur ce message. Faites un grand sourire à votre voisin. Alléluia. Glory to God. Wow, God is so good. Vous êtes déjà dans 1 Pierre chapitre 1, n'est-ce pas? Au verset 13, nous allons voir quelque chose aujourd'hui qui va révolutionner vos vies. Amen. C'est tout ce que ça vous fait? À révolutionner vos vies? Ouais. Je ne prêche pas pour ma santé, mais pour la vôtre. Amen. Glory to God. J'ai déjà reçu ce message. Est-ce que vous le voyez, n'est-ce pas? Je l'ai déjà reçu ce message. Il m'a déjà transformé. Il m'a déjà béni. Il m'a déjà encouragé. Maintenant, c'est votre choix de le recevoir. N'est-ce pas? Glory to God. Isn't God good? God is so good. Vous êtes dans 1 Pierre 1, verset 13. Ce message va révolutionner vos vies.
Amen.
Je vous rappelle ce que nous avons lu la semaine dernière, le fait que nous devons traduire la parole que nous recevons en acte. Parce que à défaut de cela, nous n'en tirons aucun bénéfice. Et vous savez, là-dedans est la clé du manque de fruits dans la vie de beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites oui.
Oui.
Demandez à votre voisin, est-ce que c'est de toi qu'il parle? Demandez à votre voisin. Ne commencez pas dans la désobéissance. Demandez à votre voisin. Glory to God. Je vois que tout le monde a dit non, donc je veux croire ce matin que personne ne va écouter ce message sans le traduire en acte.
Amen.
Father, we just thank you for this word that is going to change our lives. Vous êtes dans 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra comme des enfants obéissants. Il s'agit de moi. Ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement. Car voici ce que dit Dieu dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Dans la version Louis Grand, ce passage, je vais lire les premiers versets. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous avons vu, n'est-ce pas, qu'il y a un appel à l'action. Faire, il faut faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, nous pensons à ce qu'il ne faut pas faire. Et nous pouvons même dresser la liste de ce qu'il ne faut pas faire. Mais souvent, nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et comment est-ce qu'il faut faire? Et dans quel état d'esprit est-ce qu'il faut faire? Comme je vous dis toujours, notre comportement est le reflet de ce que nous croyons, de ce que nous pensons, n'est-ce pas? Et avant de pouvoir changer ce que nous faisons, ce passage nous parle de notre comportement, ce que nous faisons, notre conduite, n'est-ce pas? C'est la même chose. Notre manière d'agir, en d'autres termes, ce que nous faisons, les actions que nous entreprenons. Et nous avons parlé de cela et c'est important. Nous savons que tout est question de... Il y a un appel à l'action. Et que l'action est un déclencheur. Que l'action est une semence. Qu'il y a un retour sur investissement. Que chaque chose que nous faisons va avoir un impact sur nos vies. Il y aura des répercussions. Aucune action n'est anodine. Aucune action... Il n'y a pas de chute des cours de la bourse. Vous investissez, vous allez avoir un retour sur investissement. Et nous avons vu qu'il y a une multiplication dans la moisson qui vous vient par rapport à ce que vous avez semé. Lorsque nous comprenons que notre action est une semence, nous comprenons que nous devons veiller à nos actions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce passage, il nous est dit que nous devons tenir notre esprit en éveil. Et littéralement, ce qui est dit, c'est qu'il faut ceindre les reins de notre entendement. Et lorsqu'il parlait de ceindre les reins, c'est une image qui est l'image de quelqu'un qui s'apprête à l'action. Vous avez votre vêtement, vous mettez votre ceinture, vous saignez vos reins parce que vous allez sortir, vous allez agir, vous allez faire quelque chose. C'est pour cela que dans certaines versions en anglais, ils traduisent le sens en disant préparez-vous à l'action. Préparez votre intelligence à l'action. Préparez-vous à l'action. Donc, il faut tenir votre esprit en éveil. Il faut être prêt à agir. Il faut être prêt à faire quelque chose. Il faut être disposé à avancer. Glory to God. C'est le contraire de... J'ai prié, je dors en attendant que Dieu fasse quelque chose. Disposé à agir, disposé à entreprendre une action, ne vous laissez pas distraire. Si vous ne devez pas vous laisser distraire, ça veut dire que vous devez avoir un objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, il n'y a pas de distraction, vous vivez dans une espèce de magma humain. Il y a un objectif. Et c'est la même expression qui est traduite par « soyez sobre ». Soyez sérieux. Il y en appelle au sérieux. Une des choses que l'on insiste constamment, sur laquelle on insiste constamment auprès des chrétiens, c'est que la vie chrétienne est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas parce que nous chantons que c'est un jeu. Nous ne chantons pas pour nous amuser. Même si nous dansons pour exprimer notre action de grâce, notre louange envers Dieu. Nous ne dansons pas parce que c'est bon enfant. Jésus est mon ami, est mon ami. Non, nous ne dansons pas juste pour passer un bon moment. Malheureusement, beaucoup de chrétiens vont à l'église pour passer un bon moment. Vont à l'église pour avoir un temps de détente. Oublier leurs soucis. N'est-ce pas? Il n'y a pas un chant comme ça. Pas d'oublier ses soucis. Ah, mais oui, c'est... dans sa présence, élevez le nom de Jésus, et tu entends la musique, et tu vois le peuple louer, oublie simplement tes soucis. Voilà, il y a des gens qui viennent pour oublier leurs soucis. Le temps des choses, des raisons. Hey, mon ami, hey, tu es avec moi aussi, hey. Et ils oublient leurs soucis pendant ce moment-là et s'en vont. Donc pour eux, la vie chrétienne, c'est une affaire de danse, de réjouissance, et ce n'est pas quelque chose de sérieux. Soyez sérieux. Dites sérieux.
Sérieux.
La vie est une affaire sérieuse. Et la vie chrétienne est sérieuse. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour chanter et danser un moment et que Dieu s'occupe de tout. Nous sommes nés de nouveau et équipés par la puissance de quelque chose de sérieux. C'est la raison pour laquelle on ne dort pas pendant le message. Parce que ça peut être ce qui va être dit qui va changer vos vies. Un jour, j'étais allée dans une réunion. J'étais seule pendant longtemps, je venais d'arriver en France, je ne connaissais personne, je ne connaissais aucun chrétien, j'ai fait toutes sortes d'églises en cherche, je ne savais pas où se trouvaient les églises évangéliques, c'était avant Internet, n'est-ce pas? Avant Internet, on pouvait googler une église évangélique. Et je cherchais, tout ce que je pouvais faire, c'était regarder les annuaires et chercher, et j'étais, oh! Et finalement, quelqu'un m'a invité, une fille a fait irruption dans ma chambre universitaire. « Hello, I'm Margaret !» Elle s'est présentée, je dis, « Who is she ?»« Yeah, so... » Et il s'est trouvé que c'était un envoyé de Dieu. Parce que c'était grâce à elle que j'ai connu une église évangélique et j'y suis allée. Et à cette réunion, heureusement que je n'ai pas dormi pendant le message. Heureusement. Parce que le message qui a été donné m'a réveillée. Je commençais à perdre mon feu. Je commençais à être fatiguée. Je ne perdais pas mon amour pour le Seigneur, mais mon zèle. J'ai toujours été pour Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Mais je commençais à être un peu cool, un peu relax. À force de fréquenter des églises, on n'ose pas élever la voix. Je commençais à être comme ça. Et certains d'entre vous, vous êtes embarrassés, vous êtes comme ça, quand même. Et ce message m'a réveillée. Ce message a mis le feu, a réveillé le feu qui est en moi. Comme on dit en anglais, mon bébé s'est réveillé. Et c'était parti de nouveau. La vie chrétienne est quelque chose de sérieux. On ne dort pas pendant le message. Quand vous dormez pendant le message, c'est la preuve que vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux. Et que vous n'estimez pas la parole de Dieu. Et que vous n'estimez ni vous-même, ni la parole de Dieu, ni la personne qui vous enseigne. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça que les gens font le tour de la même montagne tellement de fois. Parce que Dieu vous donne une parole, vous êtes là à dormir, pendant que la parole est en train d'être donnée. Après, vous rentrez à la maison, « Seigneur, parle-moi », et il ne parlera pas. Parce que vous n'avez pas su honorer sa parole, ni honorer ses serviteurs. C'est important de comprendre ces choses. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas le « je danse, je passe un bon mois ». Voilà, chorale aujourd'hui, on a dansé, ça a explosé. Non mais le message, wow, c'était fort. Et cette absence au sérieux, c'est ce qui explique la médiocrité dans la vie des chrétiens. Ce n'est pas normal. Dites à votre voisin, ce n'est pas normal. Tu dois agir avec puissance. Tu dois agir avec force. Dans ta génération. Et pas avec légèreté. Il y a trop de légèreté dans l'église. Trop de légèreté. Trop de légèreté. La vie est quelque chose de sérieux. La vie chrétienne est quelque chose de sérieux et Dieu compte sur vous pour amener des changements dans votre génération. Et si vous passez votre temps dans des choses qui n'apportent aucune valeur au royaume de Dieu, quand vous allez vous tenir devant Dieu, demandez à quoi ta vie m'a servi. Si vous devez vous poser la question aujourd'hui, à quoi votre vie sert pour Dieu? Quel est l'avantage que Dieu obtient de votre existence? Est-ce que vous allez avoir une réponse qui va vous réjouir le cœur? C'est important de comprendre ces choses. La parole de Dieu est quelque chose de sérieux. Il nous encourage, nous bénit, nous donne la joie. On se réjouit parce qu'il est bon, pas parce qu'on a besoin de se divertir. On ne peut que se réjouir en lui parce qu'il est tellement extraordinaire et tellement bon. Mais il nous a dit ici, soyez sérieux! Et sérieux ne veut pas dire ennuyeux. Elle dit, oui, mais c'est trop sérieux là-bas. Non, toi, tu es trop léger. Sérieux ne veut pas dire ennuyeux. Sérieux, c'est être prêt à l'action. C'est comprendre les choses qui sont importantes et s'appliquer aux choses qui sont importantes. Et quand on s'applique dans les choses importantes, là, on a la vraie joie que rien ni personne ne peut nous enlever. Qui n'est pas dépendant des circonstances, qui n'est pas dépendant de l'approbation d'un tel ou l'approbation d'un tel. Les gens qui disent, un tel pense, et alors? Ça, c'est parce qu'il y a manque de sérieux. Nous sommes censés être sérieux, nous allons être sérieux à Abba House. Tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Soyez sérieux. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir ici? En réalité, il est en train de nous demander d'être proactifs. De ne pas jouer les victimes. De ne pas juste être sujet aux circonstances. Mais il faut être en éveil. Il faut être prompt à l'action. Il faut bouger, agir quand il le faut, être sérieux, être disposé à fonctionner dans le sens de ce que Dieu veut en gardant tout notre cœur sur le Seigneur. Vous allez me dire, mais on est en train de parler d'un style de vie. Comment, qu'est-ce que nous devons faire? Oui, c'est là où ça commence. C'est là où ça commence. Parce qu'il faut une philosophie de base pour tout ce que nous faisons. Nos actions sont le résultat de ce que nous sommes et de ce que nous croyons. C'est un appel à l'action. Nous sommes donc appelés à, non pas à subir ou à découvrir, mais à agir, amener à l'action, amener à l'existence. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'il y a des gens qui vont subir les choses. Les choses vont leur arriver, n'est-ce pas? Nous sommes toujours en train de parler de ce qui m'arrive. Si tu sais ce qui m'arrive, les choses vont leur arriver. Ou ils vont vivre des coïncidences. Ou ils vont vivre des rencontres heureuses. Et Dieu orchestre des rencontres heureuses. Nous le savons, n'est-ce pas? Mais Dieu ne nous a pas appelés à vivre uniquement de choses hasardeuses. N'est-ce pas? Il nous a appelés, nous, à être des agents pour, de façon méthodique, amener des choses à l'existence. Et c'est là où le bât blesse. Parce que nous sommes toujours à l'affût de ce qui va juste nous tomber dessus. Ce qui va juste nous arriver. On dit que les gens pauvres sont souvent des gens qui sont là à rêver de gagner beaucoup d'argent. À imaginer qu'ils vont jouer à la loterie. Le nombre de gens qui jouent à la loterie, c'est incroyable. Un jour, j'étais allée récupérer en colis et je voyais des gens défiler. Je me disais, qu'est-ce qu'ils font? Tous venaient jouer à la loterie. Il y a des années de cela, j'avais, à l'époque des fax, il y a une vingtaine d'années, non seulement c'était l'époque des fax, mais les fax étaient rares aussi, et j'étais allée chez mon buraliste pour envoyer un fax, et il m'a demandé si je voulais bien attendre, parce que c'est vendredi, je me dis, et alors? Mais en fait, c'est le jour où les gens jouaient au loto. Il fallait les voir tous, je me dis, mais tous ces gens viennent jouer à la loterie toutes les semaines. Il faudrait mieux d'aller investir leur argent. D'aller travailler, créatif, développer, mettre des choses en place. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens qui gagnent au loto perdent tout de suite l'argent. Et c'est important pour nous de ne pas être là à attendre que quelque chose nous arrive. Lorsque la parole de Dieu nous parle de ce que nous sommes censés faire, l'action est mise sur nous, notre action, et non pas sur la passivité. La passivité. Et souvent, lorsque les gens vont vous raconter les choses qui arrivent dans leur vie, vous allez écouter attentivement, vous allez vous rendre compte que la majorité de ce qu'ils disent sont des choses sur lesquelles ils n'ont exercé aucune influence. Aucune influence. Ce sont des choses qui sont arrivées. Ah oui, après, mon père m'a appelé, il m'a donné ci, il m'a proposé ça. Mais toi, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as conçu? Tout est assez pour réfléchir sur quelque chose et tu l'as amené à l'existence et c'est en train de fleurir, oui ou non? Non, mais je pense que peut-être que quand ils vont se rendre compte que je suis... Et les gens n'agissent que par désespoir pour ne pas être au chômage, pour ne pas manquer d'argent totalement, pour ne pas être à la rue. Ils vont bouger pour chercher un endroit où habiter. N'est-ce pas? Mais nous, donc, c'est un peu comme ce que je vous expliquais hier. Beaucoup de gens fonctionnent dans le domaine survie. Le minimum pour survivre. Ils vont réfléchir quand c'est absolument indispensable. Mais ce n'est pas notre appel en tant que Dieu. Parce que nous ne sommes pas des gens qui sont censés occuper du terrain, mais conquérir du terrain. Dites conquérir. 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 Alors, je vais vous donner un certain nombre de choses que vous allez noter. Si vous voulez être quelqu'un qui provoque des choses, et non pas simplement qui subit ou qui découvre. Alléluia. Je parlais avec quelqu'un hier. Je lui disais, et la personne avait deux choses à faire. deux choses à faire. Et elle n'a fait aucune de ces deux choses, mais elle avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses qui lui étaient arrivées, mais que des choses qui sont arrivées sans elle. Vous suivez? Les choses qui sont arrivées de manière hasardeuse, fortuite ou orchestrée par d'autres personnes. Les choses qu'elle devait amener à l'existence ne sont pas venues à l'existence. Est-ce que vous comprenez? Je veux que chacun de nous, que l'on réfléchisse. Qu'est-ce qui se produit dans votre vie? Et combien de choses qui se produisent dans votre vie se produisent par votre intervention réfléchie? Est-ce que vous me suivez? Dieu veut que nous soyons des gens qui intervenons sur des situations. Je vais intervenir. Il y aura un avant et après Ebola. Quand je vais passer, je vais agir pour changer les circonstances. Et quand je vais partir, les circonstances seraient différentes. Pas pires, mais meilleures. Parce qu'il y a des gens, quand ils partent, les circonstances sont différentes, mais pires. Saignez vos reins, saignez les reins de votre entendement. Préparez-vous à l'action. Préparez-vous à l'action. Ne vous laissez pas distraire. Soyez sérieux, soyez sobre. La première chose qu'il faut noter, c'est l'identité. Il y a trois éléments principaux que je vais évoquer avec vous aujourd'hui, si j'ai le temps, dans le sens de ce que je suis en train de dire. Le fait d'agir, il faut agir. Dans le sens positif, pas uniquement dans le sens négatif. Bien sûr qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais il y a des choses que nous devons faire. Et pour agir comme nous devons en tant qu'enfants de Dieu, il faut que nous ayons une compréhension de notre identité. Nous agissons, nous faisons des choses qui correspondent à ce que nous pensons être. N'est-ce pas? Quelle est votre identité? Il y a un homme qui avait compris son identité. Je suis toujours épatée par l'histoire de Joseph. Est-ce que vous savez que Joseph est avec le Seigneur? L'une des rares personnes dans la parole de Dieu dont rien de négatif n'est dit. Et Joseph était quelqu'un qui avait un sens très clair de son identité. Il savait qui il était. Et ce qu'il faisait correspondait à ce qu'il pensait de lui-même. Quand vous analysez bien l'histoire de Joseph, à tous les niveaux, il avait un comportement exemplaire. On peut bien sûr dire qu'il avait manqué de sagesse en disant à ses frères ses rêves. Mais ça, c'est juste une extrapolation que nous faisons, n'est-ce pas? Mais c'est un homme qui avait reçu des rêves de Dieu, qui donc avait une certaine image de lui-même. Et quand on voit son comportement dans la maison de Potiphar, on voit aussi qu'il avait une certaine image de lui-même, une certaine conscience de son identité et de sa relation avec Dieu. Et quand la parole de Dieu nous exhorte à l'action, une action positive ou une action négative, vous dites ne faites pas ceci, il y a toujours une invitation à agir à cause de ce que nous sommes. Pour ceux qui n'ont pas compris, qu'est-ce qui nous est dit ici? Comme des enfants obéissants. Ça, c'est notre identité. C'est ce que je suis. Je suis un enfant de Dieu. Et je suis un enfant obéissant. Et parce que je suis un enfant obéissant, je vais agir de cette manière et je ne vais pas agir de cette manière. Lorsque nous parlons des choses que nous faisons et que vous voulez que Dieu change votre vie et votre comportement, et que vous voulez changer votre vie et votre comportement, parce qu'il nous a dit de faire attention à notre comportement. La première chose, c'est de travailler sur... Je ne t'ai pas invité à venir t'asseoir. La première chose est de travailler sur ce que nous pensons de nous-mêmes. Notre identité. Comme des enfants obéissants. En d'autres termes, vous êtes des enfants obéissants. Est-ce qu'il y a des enfants obéissants ici?
Amen.
Alors, si vous êtes des enfants obéissants, voilà comment vous allez vous comporter. Et quand j'intègre la notion que je suis un enfant de Dieu, Je comprends qu'il y a des choses qui me correspondent en tant qu'enfant de Dieu et des choses qui ne me correspondent pas. On dit, par exemple, la parole de Dieu dit que la louange sied aux hommes droits, n'est-ce pas? Si je suis un homme droit, une femme droite, je sais donc, par conséquent, je devrais être un adorateur. Vous me suivez? La parole de Dieu nous dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ Jésus. En d'autres termes, tu es un soldat, Timothée. Tu es un bon soldat, donc souffre avec moi. Il peut prendre sa part des souffrances de l'évangile parce qu'il est un soldat et qu'il est un bon soldat. C'est la raison pour laquelle je vous ai expliqué le fait que nos actions sont le reflet de ce que nous sommes et de ce que nous sommes en train de devenir. Et nos actions nous permettent aussi de devenir ce que nous sommes censés devenir. Glory to God. Glory to God. Ça veut dire gloire à Dieu. Hallelujah. Notez ceci, mon identité. Mon identité, ma conscience de mon identité va façonner mon comportement. Quelle est la différence entre les petits princes et les autres enfants? Pourquoi est-ce que vous voyez un prince? Regardez par exemple la famille royale d'Angleterre. Vous êtes un peu trop jeune pour vous souvenir, bon, pour la plupart, vous êtes trop jeune pour vous souvenir du prince de Galles actuel lorsqu'il était enfant, lui et son frère. C'était assez saisissant de voir comment ils se tenaient. D'autres enfants de leur âge ne se tenaient pas comme ça. Pourquoi? Parce que c'était dans leur gène? Non. Parce qu'on leur avait inculqué le sens de ce qu'ils étaient. Et donc, puisqu'ils sont des princes, ils doivent se tenir d'une certaine façon. Ils doivent marcher d'une certaine façon. Ils doivent parler d'une certaine façon. Et dès tout petit, ils ont intégré cette notion. Et cela a façonné leur conduite. Lorsque la parole de Dieu insiste pour nous dire qui nous sommes, ce n'est pas juste pour nous encourager momentanément. Ce n'est pas juste pour que nous passions un bon culte, que nous crions, que « Yeah! Alléluia! » C'est pour que cela puisse pénétrer en nous, changer radicalement notre manière de voir et notre manière de fonctionner. Notre manière de réagir à cause de ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle le défaut de méditation de la parole de Dieu est en train de saper l'âme à beaucoup de chrétiens. Parce qu'en l'absence d'une vraie méditation de la parole, on ne peut pas avoir cette conviction profonde de ce que l'on est. Et cette identité bien établie. Est-ce que vous me suivez? Et c'est cette identité qui définit notre manière de fonctionner et notre manière d'agir. Et nous voyons beaucoup de mauvaises conduites de la part de chrétiens qui ne devraient pas exister, mais qui n'existent que parce que les gens ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont en Christ. Des manifestations de colère, d'insécurité qui sont uniquement le résultat du fait que les gens n'ont pas intégré leur vraie identité. Lorsque vous intégrez réellement qui vous êtes, vous devenez inébranlable. Inébranlable parce que vous savez qui est votre Père. C'est important de comprendre ces choses. Vous savez en qui vous avez cru. Lorsque Paul était sur ce bateau qui allait couler, il a dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Il dit, je connais celui en qui j'ai cru. Et il a exprimé cette certitude concernant votre vie et les choses de votre vie ne peuvent venir que de cette conscience de votre identité définir votre manière d'agir. Vous ne sentirez pas le besoin de faire certaines choses que certaines personnes font. Et vous allez vous occuper à agir d'une certaine manière, à créer des choses, à mettre des choses en place dans votre vie qui vont vous conduire à votre destination parce que vous avez une conscience de ce que vous êtes. Vous n'allez pas non plus être entraîné dans des actions qui ne correspondent pas à un enfant de Dieu parce que oui, ce qu'on appelle peer pressure. Oui, tous les amis le font parce qu'ils vont penser que ça n'a aucune importance. Tout cela est le reflet d'une absence de conscience de votre identité. Demandez à votre voisin, qui es-tu? Qui es-tu? qui es-tu, enfant de Dieu, héritier du royaume? Et ce n'est pas simplement une façon de parler ou quelque chose qui encourage, qui fait plaisir. C'est une réalité. Et la conscience de cette réalité change ma manière de fonctionner. La conscience de cette réalité, c'est la raison pour laquelle Daniel, lorsqu'il était à la cour du roi de Babylone, ne s'est absolument pas senti inférieur. Beaucoup de chrétiens se sentent inférieurs vis-à-vis des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est tragique. C'est absolument tragique. C'est tragique. Daniel était captif. Il venait d'une nation qui avait été subjuguée, qui avait été quasiment anéantie. Et il a été emmené en captivité à Babylone. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est « waouh !» Il pouvait être là avec les autres exilés, au bord du fleuve, à chanter « By the rivers of Babylon, where we sat down and there we wait. » When we remember Zion. Non. Ah, les jeunes me regardent. C'est quoi ce chant? Wow. Precious. Yo. C'était avant Jésus-Christ. Mais c'est un chant qui est une situation biblique, n'est-ce pas? Les exilés qui étaient en train de penser à Sion, penser à Jérusalem. Et le chant dit... And how can we sing the Lord's song in a strange land? N'est-ce pas? Bon, ok, avancez. Yeah, Jesus. Qu'est-ce qui se passe avec Daniel? Daniel ne se sent absolument pas inférieur. Il sait qui il est. Et on l'amène dans la cour du roi. Il n'est pas là du wow. Moi, je suis là. Non. Il ne se sent absolument pas inférieur. Il ne fait pas de compromis. Ses amis ont décidé qu'il n'allait pas, écoutez bien, se souiller avec les repas du roi de Babylone. Il faut le faire. Le roi de Babylone était le roi quasiment de tout le monde connu d'eux, du moins à l'époque. C'était celui qui avait gagné. C'est un peu comme si on vous invite à manger avec le président des États-Unis. Et vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est le grand repas. Non, mais c'est pas assez bon pour moi. Pardon? Moi, j'ai quoi chez vous? Steak frites? Daniel, parce qu'il savait qui il était, il connaissait son héritage en Dieu. Il savait ce qui correspondait en tant qu'un homme qui avait une alliance avec Dieu. Et à cause de cela, il a regardé tous ses repas. Les autres étaient là, waouh, ils vont vous laisser manger ça. Waouh, quelle grâce vous avez, vous, des exilés de rien du tout. Vous? Mais eux, ils disaient, non, nous savons qui nous sommes. Et nous n'allons pas manger ça. Parce que c'est contraire aux lois de notre Dieu. Et ça va nous souiller. Et nous n'allons pas y toucher. Combien de chrétiens font des choses qui les suivent chaque jour parce qu'ils n'ont pas compris qui ils sont? Dites identité. Méditer sur son identité. Qu'est-ce qui définit notre manière d'agir? Notre identité, notre sens de ce pour lequel nous sommes là. Et je vais en parler dans quelques instants, mais il faut que chacun saisisse pourquoi il est là. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Quel est le sens de mon existence? Pourquoi je suis là? Quelle est ma mission? Quel est mon appel? Qu'est-ce que Dieu avait dans son cœur quand il m'a amené à l'existence? La conscience de ma mission, la conscience de ce que Dieu avait dans son cœur va agir sur ma manière d'agir, sur mon fonctionnement. Qu'est-ce qui définit l'action? Définir ce que je fais. Parce que là, nous ne sommes pas simplement en train de regarder ce que je n'ai pas le droit de faire. Nous sommes en train de regarder ce que j'ai le droit de faire et ce que je suis censé faire. Mon identité. Je suis né de Dieu. Waouh. Ma mission, mon appel, mon but dans la vie. Purpose en anglais. Difficile à traduire en français. Ça va définir ce que je vais faire. Ma conscience de ce que je suis. Lorsque Néhémie était en train de bâtir pour bâtir les murs de Jérusalem. Et il venait, lui dit, il faut que tu ailles te cacher parce qu'il y a des gens, ils vont venir te tuer. Ils sont en train de se masser, se préparer contre toi. Et il y avait une vraie opposition. Une opposition telle qu'ils construisent d'une main et portaient des fusils de l'autre main. Il y a une vraie opposition, ils vont venir te tuer. Qu'est-ce que Néhémie a dit? C'est saisissant. Vous devrez lire la parole de Dieu. Néhémie a dit ceci, est-ce qu'un homme comme moi peut fuir? Un homme comme moi peut-il fuir? Un homme comme moi peut-il fuir? Un homme comme moi peut-il fuir? Et en plus, on lui a dit, va te réfugier dans le temple. Oh, il n'avait pas le droit d'aller entrer dans le temple. Et beaucoup d'entre nous, c'est dans ces moments-là, parce que nous ne savons pas qui nous sommes, que nous prenons les mauvaises décisions par peur, par crainte. Et nous allons prendre une mauvaise décision, aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et quand on dit, pourquoi tu fais ça? Oui, mais après tout, tu n'as pas vu la situation dans laquelle je suis, mais c'est pas ce que tu nous souhaitais. Tu aurais compris que tu n'avais pas à céder à la panique, tu n'avais pas à céder à la peur, tu n'avais qu'à dire, non, non, je refuse. Je ne vous permets pas de faire ça. Parce que je sais qui je suis. Je ne panique pas. Lorsqu'on veut vous imposer une conduite contre la volonté de Dieu au travail, qu'on dit sinon on va vous licencier, au lieu de dire, ah, bon d'accord, je vais le faire, je fais des fausses factures parce que sinon, oui, mais j'ai pas le choix, pasteur, mais sinon ils m'auraient licencié, après tout, non, c'est là, j'ai quoi? Non, moi, il n'en est pas question. Et vous entrez dans l'esprit et vous appelez l'intervention de Dieu. Amen. Que le feu de Dieu détruise vos fausses factures. Amen. Parce que je sais qui je suis. Et il n'est pas question de me laisser intimider. Il n'est pas question qu'on passe le chantage. Notre identité, notre sens de notre appel, de notre mission, de notre destinée, de notre but. Il faut que chacun de vous, que vous passiez le temps devant Dieu pour saisir pour qui est-ce que je suis. Pourquoi est-ce que je suis là? Dans la parole de Dieu, il nous immergeait. Éphésiens, qui est-ce que je suis? Mon identité en Christ. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un encouragement, c'est une réalité. C'est une réalité. Et nous nous comportons comme si c'était, ces choses étaient là parce que Dieu voulait juste nous caresser et nous encourager. Ah, mon petit papa gâté m'a encore béni ce matin, m'a encore encouragé. Ah, le pasteur a dit que je suis née de Dieu, c'est gentil. Quand nous comprenons notre identité, il y a un cri en nous. Il y a un cri en nous. Il y a une révolte lorsqu'il y a une tentative d'intimidation. Néhémie a une révolte. Un homme comme moi peut-il fuir? Il n'en est pas question. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont laissé tranquille. Ils l'ont laissé tranquille. Combien de choses qui vous poursuivent, continuent à vous poursuivre simplement parce que vous n'avez pas déclaré qui vous êtes. La deuxième chose que vous allez noter, s'il vous plaît, c'est que tout ce que vous faites, vous devez faire avec un œil sur l'éternité. Je vais vous relire ce passage que nous avons lu pour que vous compreniez cela. Car voici ce que dit dans l'Écriture, voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints car je suis saint. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, voyez encore ce que je suis, ce que je fais. Vous appelez Père. En d'autres termes, vous êtes ses enfants. Par conséquent, celui qui juge tout homme... qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, en d'autres mondes n'est pas votre destination finale. Nous avons vu ici que Dieu est celui qui juge nos actes. Et il est impartial. Donc, je prends conscience du fait que, un, il y a un jugement qui va intervenir. Il y a une analyse qui va être faite plus tard de ce que j'ai fait sur la terre. La deuxième chose, que le monde n'est pas ma destination finale. Je suis en passage. Ce qui veut dire que les valeurs de ce monde ne devraient pas régir ma conduite. Parce que ce n'est pas ma destination finale. Cette même expression est traduite par « puisque vous êtes en exil sur la terre ». Pendant le temps plutôt de votre exil sur la terre, pendant le temps qui vous reste à passer sur la terre, pendant le temps de votre exil, et dans la version de second, pendant le temps de votre pèlerinage sur la terre. Et il y a une version en anglais qui dit « puisque vous êtes étrangers sur la terre ». Toutes nos actions doivent être guidées par cette philosophie. Nous sommes étrangers sur la terre. Nous sommes de passage. Ce n'est pas notre destination finale. Vous allez parler avec les gens qui vont vous dire, oui, mais après la mort, il n'y a rien. Nous savons qu'il y a quelque chose. Nous savons que la vie n'est que l'antichambre de l'éternité. Et donc, que l'éternité est ce qui doit compter pour nous. Que l'impact de nos actions dans l'éternité, c'est ce qui doit compter pour nous. Ce n'est pas l'impact de nos actions ici et maintenant. Est-ce que vous me suivez? Lorsque vous avez un œil sur l'éternité, vous jugez vos actions sur la base de leur valeur dans l'éternité et comment est-ce que cela sera vu dans l'éternité. C'est ça qui détermine ce que je fais et ce que je ne fais pas. Est-ce que vous me suivez? Il y a toujours une philosophie de base. Il y a toujours quelque chose qui régit mon comportement. Il ne s'agit pas juste de ce que je fais, il s'agit de ce que je suis, ce que je pense, mon identité, mon sens de mon appel et aussi la conscience de l'éternité. Je suis étranger sur la terre. Est-ce que quelqu'un veut le déclarer trois fois? Ça, c'est une bonne confession à faire. C'est une bonne confession à faire. Vous rappelez constamment que vous êtes étranger sur la terre. Quand vous vous rappelez constamment que vous êtes étranger sur la terre, vous allez trouver normal que vous ne fonctionnez pas comme les gens qui sont de la terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes étrangers sur la terre. Et ce sur lequel je me concentre, c'est ce qui va devenir puissant et important dans ma vie. Je suis en train de parler avec des gens hier. Je leur disais, c'est un peu comme si une petite pointe, une petite tache, n'est-ce pas? Disons que j'ai une petite tache ici. J'ai une petite tache ici. Vous regardez cette tache. Vous regardez longuement cette tache. Quelqu'un parle de la tâche, je parle de la tâche. Quelqu'un d'autre vient parle de la tâche. On essaie d'enlever la tâche. Et on parle longuement de la tâche. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne verrez que la tâche. Je vais bouger, vous allez voir la tâche. Je vais m'asseoir, vous allez voir la tâche. Je vais me lever, vous allez voir la tâche. Et vous allez oublier que je porte en fait un haut qui est très joli. Regardez, il est très beau. Je pense que ce tissu, je l'avais acheté en Inde et je l'ai fait faire en Indonésie. C'est en Indonésie que je l'ai fait faire? Non, au Cambodge. Je l'ai fait faire au Cambodge. J'ai un peu de difficulté à leur expliquer le style. Ils ont même failli manger mon tissu. Tout cela, vous ne savez pas. Mais au moins, vous savez que c'est un tissu qui est très joli et qui a beaucoup de dessins. Regardez, il y a des dessins ici, il y a des dessins différents en bas. Donc, il y a de quoi regarder, n'est-ce pas? Mais vous ne verrez que la tâche. Parce que c'est sur cela que vous êtes concentré. Notre vie sur terre est comme une tâche dans tout le plan éternel de Dieu. N'occupe que cette place. Et parce que nous ne vivons, nous ne voyons que cela. Nous ne nous rappelons pas constamment que nous sommes des créatures faites pour l'éternité. Que nous sommes des étrangers sur la terre. Nous n'avons pas la conscience de l'éternité. Ça ne régit pas nos pensées et nos actes. Et nous sommes déterminés dans nos choix, dans nos actions, uniquement par cette petite tâche. Et le monde est omniprésent. Parce que c'est notre méditation constante. C'est important de saisir. C'est comme cela que nous vivons victorieusement. C'est comme cela que nous agissons. C'est comme cela que nous faisons des choses qui sont agréables à Dieu. Nous gardons ces choses à cœur. Nous les gardons en tête, nous y pensons, nous y parlons, nous en parlons, nous nous asseyons devant Dieu. Seigneur, montre-moi qui je suis. Nous méditons la parole de Dieu. Mais qui suis-je? Nous avons parlé de la méditation de la parole de Dieu. Vous allez voir davantage ce que je veux dire. Alors, il y a un autre point que je voudrais vous dire aujourd'hui. Je veux que vous notiez. J'ai fait exprès de noter ces points parce que je veux que vous les notiez. Est-ce que vous voulez les noter? Il nous a dit ceci, soyez saints. Saints veut dire mis à part. Mis à part. Une autre conscience essentielle qui doit guider nos actions, c'est le fait que nous sommes mis à part. En tant qu'enfant de Dieu, si vous voulez agir comme Dieu veut, vous voulez réussir votre existence, vous devez avoir cette conscience en vous que vous êtes mis à part. Lorsque nous pensons à la sainteté, nous pensons à « mais je n'ai pas le droit de faire ça parce que je suis chrétien, je n'ai pas le droit de faire ça ». Non, c'est que vous avez le droit d'être différent et vous avez la possibilité de faire ce que Dieu veut et non pas ce que le monde a inculqué. Cette compréhension du fait que nous sommes mis à part pour Dieu, nous sommes à lui, séparés, mis à part, choisis par Dieu, mis à part pour Dieu. Donc, fonctionnons comme Dieu sur la terre. Cela veut dire également que nous sommes imitateurs de Dieu. Soyez saints comme je suis saint. Faites comme moi. Faites comme moi. Imitateur de Christ. Imitateur de Dieu. L'apôtre Paul dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Qu'est-ce que nous avons le droit de faire? Nous avons le droit de faire tout ce que Dieu fait. Nous avons le droit de guérir les malades. Nous avons le droit de bénir. Nous avons le droit de changer la vie des gens avec la parole de Dieu que nous libérons dans leur vie. Nous avons le droit de détruire les malades. Nous avons le droit de détruire le mal partout où nous allons. Comme Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissant Jésus de Nazareth qui allait partout faisant le bien. Comme Dieu a oint d'Esprit Saint Félicité de Paris qui allait partout faisant le bien. Nous avons le droit d'aller partout et de faire du bien. D'aller partout et de guérir, de sauver, de délivrer, de changer, de démêler les situations inextricables. Parce que c'est ce que les gens cherchent. C'est ce que les gens cherchent. Quel que soit leur niveau de réussite sur la terre, c'est ce qu'ils cherchent. Et Dieu offre cela aux plus petits d'entre nous. Eh oui. Il offre cela aux plus petits d'entre nous. Ils disent, oui, mais moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tout ce dont vous avez besoin, vous avez. Vous savez. Il faut juste l'appeler à l'existence. Il faut le voir et l'appeler à l'existence. La question qui se pose donc, c'est ceci. Je veux que vous notiez. Glory to God. Je vous dis de noter, comme ça je suis sûre que vous avez noté. La question qui se pose donc, c'est ceci. Quelles sont les choses pratiques, n'est-ce pas? Ça, c'est la philosophie de base qui soutient tous mes comportements, tout mon comportement. C'est ce que ce passage nous dit. Vous êtes des enfants obéissants, donc votre identité. Comportez-vous d'une certaine manière. Vous avez l'œil sur l'éternité, donc comportez-vous d'une certaine manière. Quels sont les éléments pratiques? Quelles sont les choses pratiques? Quelles sont les choses concrètes? Quelles sont les choses pratiques? Je sens un chant qui est en train de venir. Quelles sont les choses pratiques? Quelles sont les choses concrètes? Si je veux agir, faire la volonté de Dieu, quelles sont les choses concrètes? Quelles sont les choses pratiques? Je connais mon identité. Je connais mon appel. Quelles sont les choses pratiques? Quelles sont les choses concrètes? Quelles sont les choses pratiques? Quelles sont les choses concrètes? Quelles sont les choses pratiques? Quelles sont les choses concrètes? Je sais qui je suis. Je sais ce à quoi je suis appelé. Ça rime pas trop, mais c'est pas grave. Donc, quelles sont les choses concrètes? Quelles sont les choses pratiques? Quelles sont les choses concrètes? Quelles sont les choses pratiques? La première chose concrète et la première chose pratique, c'est ce que nous avons, c'est qu'il faut avoir une vision. Vous devez avoir un sens de votre mission. Et le sens de votre mission, mais c'est toujours pas pratique. Si c'est pratique. Ne faites pas une distinction trop forte entre vision et mission. C'est couper les cheveux en quatre. Quelle est votre mission? Pourquoi je dis que c'est pratique? Parce qu'il faut, il faut aller demander. Donc, la première chose que vous faites, c'est aller demander. En fait, qu'est-ce que tu avais à cœur quand tu m'as amené à l'existence? Et parfois, vous n'avez même pas besoin de demander. Dieu vous l'a déjà donné. Il vous a donné des indications. C'est comme Joseph. Nous revenons à Joseph. Joseph ne demande. Mais Dieu lui a donné des rêves. Donc Joseph a compris qu'il était appelé à une destinée extraordinaire. Et il a informé sa famille qu'il allait régner sur eux. Entre guillemets. Il a informé sa famille qu'il allait être quelqu'un de grand et quelqu'un de puissant. Et que Dieu allait l'utiliser puissamment. Entre guillemets, c'est l'interprétation qu'ils ont faite de ses rêves. Dieu lui-même est venu lui donner des rêves. Mais ce que vous allez faire maintenant, en parlant de comportement et de la conduite, c'est vous asseoir chez vous, pour noter ce que Dieu vous a montré sur votre vie. Quelle est la vision qu'il vous a donnée? Si vous n'êtes pas trop sûr, quelle est la mission que Dieu vous a confiée? Évidemment, vous devez faire tout ce que j'ai dit précédemment, méditer longuement sur votre identité. Parce que vous n'allez jamais réellement accomplir votre mission si vous n'êtes pas sûr de votre identité. Parce que sur le chemin de l'accomplissement de votre mission, il y a des gens, malheureusement, il y a toujours des gens qui vont venir pour un peu détruire ce que vous êtes en train de faire, pour vous amener le doute, pour créer l'incertitude, pour vous amener à baisser les bras, un peu comme ils ont fait à Néhémie. Pour vous amener, parfois, ils viennent de façon surnaturelle, nous voulons faire avec toi. Dieu nous a envoyés pour t'accompagner. Nous aussi, nous voulons participer à bâtir. Et quand vous dites, peut-être pas, bon, on va voir. Après, ça devient une opposition franche et ouverte. C'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils se prennent pour qui? Mais c'est quoi le mur qu'ils sont en train de bâtir? Mais un petit animal va monter dessus, ça va tomber. Après, c'est le dénigrement et l'opposition. Il y aura toujours cela. Si vous n'avez pas une identité très forte et très claire, et aussi un sens de mission très développé, une vision très ferme de là où Dieu vous emmène, de votre destination, vous n'allez pas y arriver. Vous allez baisser les bras. Donc c'est important de méditer longuement sur toute la partie précédente, mon identité, mon appel, qu'est-ce que Dieu avait à cœur, et de définir vous-même, et vous écrivez, quelle est ma vision? Quelle est ma mission? Pourquoi je suis sur terre? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ma vie? C'est important. Vous devez avoir une lettre de mission. Parce que sinon, vous allez vous perdre en route. Vous allez vous perdre dans la distraction. Et la distraction vient des gens qui nous aiment le plus. Qui n'ont pas vu ce que nous avons vu. Qui donc veulent nous impliquer dans des choses qui vont nous éloigner de là où nous allons parce qu'eux ne vont pas là où nous allons. Donc, ces choses-là, ils peuvent très bien les faire, mais ce n'est pas pour nous. Vous allez noter, vous allez demander à Dieu parce qu'il y a des fois où Dieu nous montre certaines choses, mais il faut aller plus loin, il faut creuser, il faut chercher, il faut prendre du temps pour dire « je veux vraiment savoir ». Parce que parfois, on voit un petit bout et on interprète mal et on court dans un autre sens. Oui, mais parce que je suis comme ça et Dieu m'a montré que je suis comme ça, mais ça ne veut pas dire que tu dois faire ça. Est-ce que vous me suivez? Rappelez-vous, nous ne sommes pas en répétition. Nous ne vivons qu'une seule fois. Une seule fois. Obtenir du cœur du Père, comme il a donné à Joseph, Dieu ne fait exception de personne. Parce que vous comprenez, après avoir eu ses rêves, Joseph a vécu le contraire. Et ça n'a pas tardé. Il y a toujours des assassins de rêves qui vont s'employer à étouffer ce qui commence à naître. Alléluia. Tout de suite, il a vécu l'inverse. Il a rêvé de grandeur, il a vécu l'opposition totale et il est tombé dans la situation inverse. Mais remarquez que Joseph à continuer à servir fidèlement. Parce que Joseph savait qui il était. Quand vous dites, j'ai une mission, j'ai une vision, et que les choses ne semblent pas se réaliser, quel sera votre comportement? Est-ce que votre comportement va être, oui, mais moi j'ai donné, j'ai fait tout ce que je peux faire, mais c'est, oui, mais après tout, je vais essayer, hein, et après tout, on laisse tomber. Non, 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 non. Non, là où vous êtes, vous faites preuve de fidélité. Là où vous êtes, faites preuve de sérieux. Je vais vous inviter tous à lire l'histoire de Joseph. Qui a déjà lu l'histoire de Joseph? Glory to God. Et si vous n'avez jamais lu l'histoire de Joseph, lisez toute l'histoire de Joseph. C'est fascinant. Extraordinaire. Il a vécu tout le contraire, mais il n'a pas lâché parce qu'il avait vu quelque chose. Il avait vu quelque chose et il savait que Dieu lui avait montré quelque chose de ferme, quelque chose de clair, et que ce que Dieu lui avait montré allait finir par s'accomplir. Et sur le chemin, il a gardé une bonne attitude et un bon comportement. Très souvent, les gens, en attendant que leur vision se réalise, ont un comportement exécrable. Ne montrent aucune fidélité, aucun engagement, aucun sérieux, ne sont absolument pas fiables. Ils attendent ce que Dieu leur a promis. Et ce que Dieu leur a promis ne vient jamais. Parce que dans la période où on est en attente d'une manifestation pleine et entière, on doit faire preuve de bonne volonté, de sérieux, d'humilité, de fidélité. Et tout cela, Joseph a pu faire parce qu'il savait où il allait. Glory to God. Demandez à votre voisin, est-ce que tu sais où tu vas?
Est-ce que tu sais où tu vas?
Est-ce que tu sais où tu vas? Et ce qui est intéressant avec Joseph, et je veux que vous le notiez, c'est qu'il est arrivé à la grandeur, comment? En étant connecté à la vision de quelqu'un d'autre. En étant connecté à la vision de quelqu'un d'autre. Lorsque il continue à avoir ses rêves, il a servi Potiphar, il a été maltraité, il a été jeté en prison, il a servi en prison, il a été maltraité parce que il a été oublié par celui qui a dit je vais penser à toi lorsqu'il a été libéré. Mais il a continué quand même à servir. Il a continué quand même à servir. Donc au moment donné, on savait où le trouver. N'est-ce pas? Et il a continué à servir. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui a propulsé Joseph dans la grandeur, nous sommes en train de parler de ce que vous faites, ce qui a propulsé dans la grandeur, c'est le fait que quelqu'un d'autre a eu une vision. Quelqu'un d'autre a eu un rêve. Quelqu'un d'autre a eu un rêve. Pharaon a eu un rêve. Et Joseph lui a dit, non, moi, je n'ai pas d'interpréter des rêves. Non, Pharaon a eu un rêve, je ne sais pas ce que ça veut dire. N'est-ce pas? Combien de gens ferment la porte en ce moment-là en disant, oui, moi je n'interprète plus de rêves. Ça ne m'a pas réussi. La dernière personne pour qui j'ai interprété des rêves m'a oublié ici dans cette prison. Ah, parce que Pharaon a eu un rêve. Bon, d'accord. Priez pour lui. Dieu peut lui montrer, c'est Dieu qui lui a donné le rêve. Il lui donnera l'interprétation. Laissez-moi tranquille. On n'imagine pas, n'est-ce pas? Mais il aurait très bien pu faire ça. Et regarder nos vies, les choses que nous faisons. Combien de fois est-ce que nous avons ce genre d'attitude? Et après, on disait, mais je ne vois pas les choses venir, mais les choses ne viennent pas parce que tout ne vient pas. Et il est allé interpréter le rêve de Pharaon. Et c'est parce qu'il a participé au rêve de quelqu'un d'autre que son rêve à lui s'est réalisé. Et souvent, les gens ne participent pas aux rêves des autres. Ils sont là, oui, moi j'attends, moi j'ai un rêve, il faut que ça vienne. Quand ça viendra, je saurai. Et après, on va parler. Or, la réalisation de son rêve était liée à la réalisation du rêve de Pharaon. La manifestation de la grandeur que Dieu lui avait montrée était conditionnée par sa soumission au rêve de quelqu'un d'autre. Il n'est devenu grand parce qu'il s'est mis au service de Pharaon. D'abord au service de Potiphar, ensuite au service dans la prison, à l'intendant de la prison, ensuite au service des deux qui avaient eu leur rêve, ensuite au service de Pharaon. Et c'est en étant au service d'un autre qu'il est devenu grand. Souvent, lorsque nous avons des visions, nous pensons que Dieu va faire de grandes choses avec nos vies, il y a des rêves, nous pensons tout ce que nous n'avons plus besoin de nous soumettre à qui que ce soit, ni de servir qui que ce soit. Si ce n'est pas super grand, ce n'est pas pour nous. Et partout où Dieu nous met, nous sommes impatients, nous nous comportons mal, parce que non, c'est pas ce que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré moi. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est jamais du jour au lendemain que ces choses se passent. Et parfois, ça ne se passera que dans le contexte du rêve d'un autre. Est-ce que vous comprenez? Quelle est votre mission? Quelle est votre vision? Qu'est-ce que Dieu vous a montré par rapport à votre vie? La chose suivante, je veux que vous le notiez, c'est que il faut assumer la responsabilité. Ce sont les choses qui doivent guider nos actions. Lorsque ces choses sont en place dans nos vies, nos actions vont correspondre à ce que Dieu veut et vont nous amener là où nous devons aller. Il faut assumer la responsabilité et il faut agir dans la foi. Parfois, les gens me disent certaines choses et je sais exactement ce qu'ils doivent faire, mais je ne leur dis pas. Et parfois, les gens me demandent, estimez-vous heureux quand je vous donne des conseils? Parce qu'il y a des fois, je ne dis pas. Parce que je sais que si je dis à cette personne, oui, je pense qu'il faudra que tu fasses ça, la personne ne va pas assumer ses responsabilités. Elle va revenir vers moi constamment pour dire, oui, mais alors je fais quoi? Non, je ne suis pas censée gérer ta vie. Je suis censée te conseiller. Et il y a des décisions que tu dois prendre toi. N'est-ce pas? Et que s'il y a des difficultés et que la personne fait quelque chose mal et que ça se passe mal, elle va dire, mais c'est vous qui m'avez dit de faire ça. Donc, je ne dis rien. Mais quand je suis avec des gens qui assument leurs responsabilités et ils me demandent, alors, qu'est-ce que tu penses? Je dis, je pense ça et ça. Et je sais qu'ils vont faire ce qu'ils font, non pas simplement parce que je l'ai dit, ce que j'ai dit est une confirmation pour eux, mais ils vont faire, ils vont assumer leurs responsabilités. S'ils font des erreurs, que les choses se passent mal, ils ne vont pas dire, mais tu m'as dit ça, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est ta faute. Non, quand même. Est-ce que vous me suivez? Or, quand vous commencez à discuter avec les gens, vous leur posez des questions, tu fais ça, mais pour... et vous voyez tout de suite qu'ils se sont trompés sur quelque chose, et ils vont dire c'est de votre faute. Vous voulez agir selon votre destinée et arriver à votre destinée, arriver à ce que Dieu veut que vous fassiez sur la terre, il faut que vous assumiez la responsabilité et agir dans la foi et développer votre foi. Nous allons parler de la foi dans les semaines à venir. Parce que la foi est indispensable. 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 Assumer sa responsabilité, être prêt à agir. Prêt à s'avancer. Prêt à sortir du bateau. Prêt à marcher sur l'eau. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à marcher sur l'eau. Ils attendent que la tempête se calme, que tout se tasse, que tout soit merveilleux, que toutes les circonstances soient impeccables et après ils vont agir. Tu es prête à marcher sur l'eau. La troisième chose, c'est qu'il faut définir des objectifs clairs. Vous allez comprendre, vous allez voir par exemple que nous avons commencé en parlant de votre identité. Pourquoi? Parce que tout ceci est lié à votre relation avec Dieu. Parce que le spirituel doit primer sur le matériel. Lorsque le spirituel est en place, le matériel en découle facilement. Mais le matériel ne va jamais conduire au spirituel. Il ne faut donc jamais sacrifier le spirituel au profit du matériel. Beaucoup de chrétiens sacrifient leur vie spirituelle, sacrifient leur service pour Dieu, pour avancer professionnellement et pour gagner de l'argent. Ils se trompent. Il ne faut jamais, jamais sacrifier votre vie spirituelle pour obtenir des choses matérielles. Tout ce qui vous viendra dans la vie, tout ce que vous allez acquérir dans la vie, sur le plan matériel, palpable, doit être le résultat de ce que vous êtes devenu spirituellement. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Certains disent, oh non, non, si, et c'est bon. Définissez des objectifs. Qu'est-ce que je veux dire par définir des objectifs? Il y a des années de cela, je me suis rendu compte que je devais avancer au niveau de mon travail, avancer professionnellement. Et donc, j'avais cela clairement comme une destination. Je voulais être l'une des meilleures. Et pour moi, je disais constamment que j'allais être l'une des meilleures. À un moment donné, le Seigneur m'a rappelé le fait que... Et il m'a mis à cœur d'apprendre une autre langue. C'est devenu un objectif. Je devais apprendre le portugais. Ça, c'est quelque chose de concret dans la vie matérielle, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir d'autres objectifs. Et quand vous définissez vos objectifs, définissez des objectifs spirituels et matériels. Définissez des objectifs qui ne concernent que vous, votre bien-être, des objectifs qui concernent Dieu et les autres. Ce que vous allez être et faire pour Dieu et ce que vous allez faire pour les autres. Ne jamais définir des objectifs qui ne concernent que vous. Jamais. 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 Dieu ne bénit pas l'égoïsme. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont du mal parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Définissez des objectifs spirituels. Définissez des objectifs concernant Dieu. Concernant ce que vous allez être pour Dieu. Comment vous allez être en tant qu'enfant de Dieu. Le genre de vie que vous allez mener. La manière dont vous allez fonctionner. Le genre de vie de prière que vous allez avoir. Le genre de temps que vous allez passer dans la parole de Dieu. La connaissance que vous allez avoir de la parole de Dieu. Définissez des objectifs. Comme par exemple, vous allez mémoriser tout le Nouveau Testament. C'est un exemple. Oh, pasteur nous a obligé de mémoriser tout le Nouveau Testament. Oh, yeah, c'est dur à Bauhaus. Non. N'est-ce pas? Comme objectif, que vous allez prier en langue une heure par jour. Deux heures, trois heures. Vous avez trois heures. Donc, vous commencez une heure les trois premiers mois. Ensuite, deux heures les six premiers mois. C'est un exemple que je vous donne. N'est-ce pas? Définissez comme objectif ce que vous allez faire pour les autres. Définissez comme objectif des objectifs matériels, non seulement ce que vous allez gagner, mais ce que vous allez donner. C'est très important. Ayez des objectifs concernant ce que vous allez donner. Et je ne parle pas de la dîme, c'est le béaba. Si vous la donnez pas, il faut décider de la donner. Mais je ne parle pas de ça. Oui, mais je donne ma dîme, c'est bon. Non, non, non. Excellez dans cette grâce de donner. Ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens. Excellez, excellez, excellez dans cette grâce. Ce sont des choses. Vous définissez ces choses et vous commencez à prier. Ou vous commencez en priant et vous continuez en priant. Nous allons parler la semaine prochaine de la prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que vous allez faire si vous avez défini des étapes? Pour apprendre le portugais, j'avais défini des étapes. Première étape, acheter méthode. J'avais aussi l'intention d'aller au Portugal. Tous les étés. Pendant 3 ans. Ensuite, aller au Brésil. Non, en moins. Etc., etc., etc. Est-ce nécessaire? Oui. Ça vous permet d'éviter la confusion dans vos vies. Et beaucoup de chrétiens vivent dans la confusion. Quand vous leur demandez, donc, quel est ton objectif? Ah, en fait, hein, non, je voudrais que le Seigneur... Non, non, je ne demande pas ce que tu veux que le Seigneur fasse. Qu'est-ce que toi, tu as l'intention de faire? Oui, mais en fait, ce que j'aimerais... Non, c'est trop vague. Dieu réagit à une prière fervente. Et une prière fervente ne peut pas venir d'un désir vague. Est-ce que vous me suivez? Votre prière n'est fervente que lorsque vous avez un désir ardent, lorsque vous avez des choses précises et vous savez, ça, c'est pas encore fait. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Vous êtes spécifique. Si vous avez défini le fait, ce n'est que lorsque j'avais décidé que j'irais passer tous les étés pendant 3 ans au Portugal pour faire une école de langue, qu'en poursuivant cet objectif, j'ai découvert que je pouvais avoir un remboursement de mes frais de scolarité. Vu que je travaillais en libéral, je n'ai jamais eu un centime de l'État, en allocation, quoi que ce soit, rien, jamais, jamais. Je fais partie des gens qui bénissent la trésorerie nationale. je n'en tire aucun bénéfice. Mais j'ai découvert que je faisais une contribution tous les ans pour la formation à un organisme. Donc, parce que je faisais cette contribution pour la formation, je pouvais obtenir un financement de ma formation. Mais si je n'avais pas défini mon objectif, je ne l'aurais jamais obtenu. C'est juste un exemple. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi définir les objectifs est important? Pour nous, ce n'est pas pour les païens. C'est pour nous. C'est pour nous. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas la foi et on ne prie pas. C'est justement parce qu'on a la foi et on prie. Parce que notre foi doit cibler quelque chose de spécifique. Et nous devons prier sur des choses spécifiques. Et quand c'était défini, j'ai pu dire, Seigneur, je veux aller, je veux que tu pourvoies. Et il m'a conduit jusqu'à ce que je sache que je pouvais obtenir un financement. Et je payais le voyage moi-même et le séjour et Dieu a pourvu. Et ça, c'était la prière. Glory to God et Dieu a pourvu. Est-ce que vous êtes avec moi? Quel est le point suivant? Vous définissez donc des étapes. Ah, je veux que vous lisiez avec moi dans Genèse. Glory to God. Si vous prenez à cœur le message d'aujourd'hui, ça va changer votre vie. Ça va enlever toute indécision. Ça va vous permettre de cibler vos prières. De savoir clairement ce que Dieu a pour vous, de comprendre la valeur de votre vie devant le Seigneur, la valeur de votre contribution sur la terre, et vous allez devenir quelqu'un de très sérieux. Pas quelqu'un qui se prend au sérieux, mais qui prend Dieu au sérieux. Et vous allez voir vos objectifs s'accomplir un par un. Et vous allez cesser d'être parmi ces gens qui attendent que les autres amènent dans leur vie ce dont ils ont besoin. Et qui passent leur temps à se plaindre de ce qu'un tel n'a pas fait, ce qu'un tel a fait, ce qu'un tel m'a pas donné, un tel aurait pu faire ça, un tel aurait pu ceci. Si je suis dans cet état, c'est parce qu'un tel n'a pas prié, c'est parce qu'un tel m'a pas donné ça, c'est parce qu'un tel aurait pu me donner ça, et elle m'a vu dans mon état, et elle n'a pas écouté, et je sais qu'elle avait de l'argent, et elle m'en a pas donné, parce que Dieu ne voulait pas qu'elle t'en donne. Il voulait que toi, tu fasses l'effort de creuser dans sa présence, d'utiliser ta foi. Je parlais de la foi avec quelqu'un hier, d'utiliser ta foi. Peut-être que Dieu veut t'amener toi au niveau supérieur. Tu es là, toi, attends, dans vous allez devenir des acteurs, dites acteurs. Acteurs de votre propre vie. un sentiment de responsabilité et de contrôle. Pas parce que nous contrôlons, mais parce que Dieu contrôle et pas quelqu'un d'autre. Alors, nous sommes dans Genèse. Est-ce que vous y êtes? Alors, je vais vous inviter à lire au verset, chapitre 41. Il nous parle du rêve de Pharaon et du songe de Pharaon. Et au verset 9, il nous dit que Pharaon était irrité, s'était irrité contre ses serviteurs. Et ce pourquoi? Parce que... Non, là, c'est le chef des échansons, n'est-ce pas? Parle du fait que Pharaon était irrité contre ses serviteurs parce qu'il expliquait comment lui s'était retrouvé en prison, n'est-ce pas? Et comment il a rencontré Joseph. Et comment son songe a été interprété. Une action de Joseph qui l'a propulsé devant le roi. Une action volontaire, comme nous avons vu la semaine dernière, qui était une semence. Et la moisson est venue lorsque cela lui a ouvert la porte devant le roi. Une moisson dans une situation négative. Il était en prison. Ces gens étaient en prison. Ils n'étaient plus des dignitaires. Souvent, nous sous-estimons les petits commencements. Souvent, nous sous-estimons l'apparence faible des gens, l'apparence impuissant des gens ou des circonstances. Nous sous-estimons des circonstances que Dieu a orchestrées pour nous amener vers l'étape suivante et nous ne faisons pas ce que nous sommes censés faire dans ces circonstances et nous nous attendons quand même à ce que ça change pour nous. Imaginez si Joseph n'avait pas interprété le rêve du chef des échansons. Imaginez si Joseph l'avait méprisé. Imaginez si Joseph avait regardé ces gens pour dire, de toute façon, vous êtes tombés en disgrâce. Ne me parlez pas de votre rêve. Je n'ai pas de temps pour des gens comme vous. Moi, je cherche des gens qui réussissent. Il n'y a que les gens qui sont arrivés, comme on dit en anglais, qui peuvent me faire avancer. Moi, je cherche la promotion. Et la promotion ne vient pas des prisonniers. Donc, on ne me parle pas des rêves des prisonniers. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que Joseph avait de l'intégrité. Lorsque nous avons de l'intégrité, nous nous comportons bien dans toutes les circonstances, qu'elles aient l'air favorables ou pas. Nous ne méprisons rien ni personne. Ni personne. Et Joseph, donc le chef des échansons explique donc comment il était tombé en disgrâce et comment il avait eu son rêve interprété par Pharaon. Le chef des échansons lui a servi de référence. Qui vous sert de référence? Qui peut témoigner de votre bonne conduite? Donc ils ont appelé Joseph, ils l'ont fait sortir à la hâte, ils l'ont fait changer de vêtements. Et Pharaon lui raconte son rêve. Et qu'est-ce qui s'est passé après que Pharaon lui ait raconté son rêve? Joseph a interprété le rêve. Au verset 17, il lui raconte son rêve. Au verset 25, Joseph interprète le rêve de Pharaon. Vous suivez la logique? Ensuite, au verset 33, au verset 32, il donne un conseil à Pharaon. Au verset 33, il lui donne un plan. Il lui donne un plan d'action qui est similaire aux étapes. Il lui donne un plan d'action. Quand Dieu vous donne une vision, qu'il vous donne des objectifs, il va vous donner un plan d'action. Joseph reçoit la révélation, il lui donne un plan d'action et lui dit exactement ce qu'il devrait faire. Pour tout rêve et toute vision que Dieu vous donne, il y a une stratégie. Et beaucoup de gens ne vont jamais au-delà du rêve et de la vision, n'appliquent jamais une stratégie quelconque. Notre prière, nous allons reprendre tous ces éléments la semaine prochaine, je pense, quand on va parler de la prière, si on ne les reprend pas, ne m'en voulez pas. Pourquoi? Parce que la prière intervient à chaque étape. C'est la différence entre nous et les païens. Nous fonctionnons par révélation. Nous fonctionnons conduits par l'Esprit de Dieu. Mais nous avons quelque chose à faire. Vous ne pouvez pas définir tout ceci sans être en prière et sans être parfois en jeûne pour entendre la sagesse de Dieu. Sinon, vous allez dire uniquement ce que vous vient en tête. Et vous allez labourer, vous n'allez pas voir de solution. Et vous allez vous plaindre de Dieu du fait qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et donc, à chacune de ces étapes, on demande au Seigneur. Et on définit selon le plan divin. Et on définit selon ce que Dieu nous a montré. Est-ce que vous comprenez? Et à chacune de ces étapes, on applique la sagesse divine. Joseph a non seulement eu la révélation de l'interprétation du rêve, il a eu aussi une stratégie. Dieu vous donnera une stratégie.
Amen.
Dieu vous donnera une stratégie. Alors, quand vous venez prier, ne priez pas uniquement au niveau de la mission. Ne venez pas simplement dire, oui, parce que le Seigneur m'a montré, je dois faire ça, ou ah, voilà ce que je fais avec ma vie, ouais, c'est super. Maintenant, il faut aussi venir me dire quels sont les objectifs. Parce que je vais vous poser la question. Et c'est là où le bas blesse. Oui, mais, non, mais c'est ça, le Seigneur m'a montré que, oui, mais il faut aller un peu plus loin. Et quel est le plan d'action? Ah non, mais moi j'ai la foi, ça va se faire. Oui, ça va se faire. Mais Dieu a un plan d'action. Dieu a un plan d'action. Dieu en fait un, deux, trois. Il y a toujours des choses qu'il va introduire auxquelles nous n'avions pas pensé avant. Mais Dieu n'est pas toujours en train d'improviser. Et une des raisons pour lesquelles nous ne faisons pas ce que nous sommes censés faire, c'est que nous pensons que Dieu est toujours en train d'improviser. Que Dieu, même Dieu ne sait pas ce qu'il va faire demain. Demain, on verra. Dieu va y penser. Et quand il le saura, il me le dira. Il nous surprend, mais il nous montre des choses d'avance. Il y a des choses que Dieu m'a déjà montrées concernant ma vie, concernant ce ministère, qui ne sont pas encore produites. Donc vous imaginez que lui, il pense à l'avance. Il réfléchit aux choses à l'avance. Il le sait. Parfois, il ne nous dit pas tout. Et il change ce que nous avions prévu de faire. Il le change à la dernière minute, mais ce n'est pas parce que lui ne savait pas. Parfois, c'est pour nous tester notre obéissance. Glory to God. Je vais terminer avec ceci. J'espère pouvoir les développer un peu plus tard. Et c'est important, en faisant toutes ces choses, de garder à l'esprit la raison pour laquelle vous êtes sur la terre. Il ne faut jamais vous perdre dans la réalisation d'objectifs matériels. Jamais. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est digne d'un enfant de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu est infiniment plus précieuse. Infiniment trop précieuse pour être consacrée uniquement à la réalisation d'objectifs matériels. Si votre vie n'est consacrée qu'à la réalisation d'objectifs matériels, vous êtes en train de saborder votre vie. Vous êtes en train d'utiliser 2% de votre potentiel. Vous êtes en train de shortchange. Vous vous vendez pour peu de choses. Or, c'est cela qui semble être la préoccupation majeure de la plupart des gens. Et c'est parce qu'ils regardent la petite tâche au lieu de regarder l'éternité. Quand Dieu nous dit de chercher premièrement, quand Jésus nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, il nous a aussi dit autre chose. Il a dit que tout le reste nous sera ajouté. Vous me suivez? Il a dit tout le reste nous sera ajouté. Pas probablement, mais tout le reste nous sera ajouté. Je veux vous inviter à avoir les bonnes priorités dans vos vies, à définir les bons principes de vie. Les bons principes de vie consistent à mettre Dieu en premier en toutes choses. Tout ce qui est matériel a d'abord une existence spirituelle. Lorsque votre vie spirituelle est en ordre devant Dieu, vous pouvez appeler à l'existence tout ce dont vous avez besoin sur le plan matériel. Et vous n'êtes pas soumis aux règles et aux valeurs du monde, vous définissez les règles. Et les gens changent. Les gens changent, les circonstances changent pour to accommodate you. Comment est-ce que je dirais cela? Comment? Voilà, pour s'adapter à vous. Puisque les enfants de Dieu n'ont pas poussé leur développement spirituel, ils sont souvent en train de changer pour s'adapter au monde. Je vous invite à définir ce que Dieu vous a montré pour votre vie, à mettre l'accent sur votre développement spirituel. Parce que c'est ainsi que vous allez pouvoir ordonner les circonstances autour de vous, que vous allez pouvoir imposer aux circonstances de changer, et où vous n'allez pas être obligé de vous soumettre aux circonstances et compromettre votre vie spirituelle. Notez ces quelques points qui sont essentiels, des principes qui sont essentiels. L'action et non la passivité. L'application et non la paresse. Joseph était exemplaire dans son application au travail. L'éducation et la formation, nous aurons l'occasion d'en parler plus tard. Ça, c'est quelque chose que vous devez intégrer dans votre plan d'action, vous former. Et quand je parle de vous former, je ne parle pas simplement de vous former en métier, c'est de vous former à des compétences diverses et variées. Il a été prouvé sur le plan neurologique que lorsqu'on apprend de nouvelles compétences, on développe son cerveau, on développe sa capacité d'action et on a beaucoup plus d'assurance. Et ça augmente notre bien-être. C'est quand vous apprenez à faire des choses, apprenez constamment à faire des choses. Apprenez à faire des choses nouvelles que vous n'en a, dont vous n'avez même pas besoin pour votre travail, mais apprenez à faire des choses nouvelles constamment. Vous dites, oui, mais moi, je ne sais pas faire ça. Je vais apprendre. Et quand vous apprenez à faire quelque chose, vous vous agrandissez. Vous élargissez vos horizons. Donc, apprenez à faire des choses nouvelles constamment. Apprenez. Et autre chose importante, c'est qu'il faut beaucoup lire. Nous allons en parler plus tard. Je termine vraiment cette fois-ci. Définissez un schéma de vie quotidien. C'est le dernier point ici, en fait. Définissez un schéma de vie quotidien. Si vous n'avez pas un schéma de vie quotidien, vous n'allez jamais réaliser vos objectifs et accomplir votre mission. Parce que l'avenir se crée chaque jour. Votre futur est le résultat de ce que vous faites aujourd'hui. Vous ne devenez pas écrivain simplement parce que un jour, vous vous levez et vous écrivez 120 pages. Vous devenez écrivain parce que chaque jour, vous écrivez 2 pages, 10 pages, 3 pages, 15 pages. Et il en va de même pour tout ce que vous faites dans la vie. Quand vous avez défini vos objectifs et défini les étapes, c'est-à-dire votre plan d'action, vous devez maintenant regarder qu'est-ce que je vais faire chaque jour qui va m'amener à cette destination. Je me souviens lorsque Fleu-Fleu avait comme intention de créer un bar à jus, c'était très intéressant de l'observer parce que je ne voyais en elle, je ne voyais aucun plan d'action sérieux et je ne la voyais pas quotidiennement faire des jus. Et je lui avais fait la remarque d'ailleurs. Et après, elle est partie s'exercer. Et quand elle l'a fait quotidiennement, elle a décidé que ce n'était pas pour elle. Est-ce que vous me suivez? Elle l'a fait tous les jours pendant 1 ou 2 semaines. Elle a dit, finalement, non, ce n'est pas pour elle. Mais si elle n'avait pas fait ça, elle aurait continué à rêver de quelque chose qui, en fait, n'était pas pour elle. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Définissez un schéma quotidien qui doit inclure votre vie spirituelle premièrement et ensuite des éléments de votre vie matérielle. Mais il y a des choses pour arriver à tout cela que vous devez faire tous les jours. Tous les jours. Que vous devez faire tous les jours. Tous les jours. Et c'est en faisant tous les jours que vous acquérez la compétence. C'est en faisant tous les jours que vous acquérez la compréhension. C'est en faisant tous les jours que vous faites des erreurs et vous apprenez de vos erreurs. C'est en faisant tous les jours que vous acquérez l'assurance. C'est en faisant tous les jours que vous avez la certitude que c'est là où vous devez aller ou que vous décidez, non, finalement, ce n'est pas ça. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et ce que vous faites tous les jours, le schéma quotidien, doit inclure des actions à intégrer, des actions qui sont des actions à haut rendement, n'est-ce pas? Non pas à la bourse, mais chez vous. Il y a des actions à haut rendement. Est-ce que quelqu'un connaît une action à haut rendement? La prière. Ça, c'est une action à haut rendement. Vous en tirez infiniment plus que ce que vous mettez. Il y a des actions à haut rendement qui doivent être, faire partie de votre quotidien. Il y a des actions, pour moi, une action à haut rendement, c'est l'écriture. Parce que je sais que c'est la saison. Donc, j'ai défini un schéma. Et chaque jour, il y a des choses que je dois faire. N'est-ce pas? C'est une action à haut rendement. Il y a des actions à faible rendement. Et il y a des actions qui sont carrément des dépenses. Des dépenses qui n'en génèrent aucun retour. Et quand vous faites votre schéma quotidien, tenez compte de cela. Tenez compte de cela. Tout ce que vous faites dans une journée doit vous apporter quelque chose qui vous conduit vers votre destination. Tout ce que vous faites dans une journée, tout ce que vous faites qui ne vous conduit pas vers cette destination est quelque chose qui sape votre vitalité, qui sape votre vie et qui détruit. Tout. Je parlais avec quelqu'un de quelque chose que j'avais entendu quelqu'un dire, qui disait, qui avait posé la question à une personne, qui demandait, combien te coûte ta télévision? Et la personne dit, ma télévision m'a coûté, disons, 500 euros. Il dit, non, ta télévision ne te coûte pas et ne t'a pas coûté 500 euros. Ta télévision, tu l'as payée 500 euros, mais elle te coûte beaucoup plus que ça. Elle te coûte tout ce que tu aurais pu accomplir et tu aurais pu gagner pendant chaque minute que tu passes à regarder le divertissement. Quand vous avez un sens de mission très aigu, que vous avez constamment vos objectifs devant vos yeux, et quand je vous demande de les écrire, c'est pour que vous puissiez les lire presque tous les jours, sinon tous les jours, et les garder devant vous. Quand vous avez des choses très fortes, une passion, il faut aussi développer une passion, la foi, la passion. Vous avez une passion, vous avez quelque chose qui est devant vous tous les jours, vous allez vite vous rendre compte que certaines choses n'ont pas de place dans votre vie. Nous consacrons un temps excessif au divertissement. Vous n'avez pas autant besoin d'être diverti que ça. Vous n'êtes pas si ennuyeux que ça. Pour avoir autant besoin de divertissement. Il y a des gens qui créent le divertissement et accomplissent leur mission. D'autres qui consomment le divertissement et passent à côté de leur mission. Une attention excessive au divertissement, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui manque et que vous êtes en train de négliger votre mission. Parce que vous comprenez, quand vous êtes à fond dans votre mission, vous avez une passion, vous ne vous ennuyez pas autant que ça. Vous ne vous ennuyez pas autant que ça. Si vous faites partie des gens qui sont souvent ennuyés, qui s'ennuient beaucoup, c'est que vous êtes loin de l'accomplissement de votre mission. Parce que lorsque vous êtes en train d'accomplir votre mission, il y a une passion qui est en vous, qui vous motive. Et les choses qui vous amènent vers votre mission vous passionnent. Vous y trouvez un vrai plaisir. Est-ce que vous me suivez? Et un tel plaisir que vous avez peu de temps pour... peu de moments où vous êtes là, bon. Et que le fait d'être là... Quand vous regardez quelque chose, ça doit être quelque chose qui vous instruit, qui vous instruit, qui vous enseigne, qui vous édifie, qui vous construit, qui vous bâtit, qui vous amène plus loin, qui fait de vous ce que vous êtes censé devenir. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est la vérité. Nous voulons accomplir notre mission. Nous voulons accomplir notre vision. Nous voulons être utiles à Dieu. Nous voulons vivre une vie de joie, une vie extraordinaire. Et vous savez, les gens les plus heureux ne sont pas les gens les plus divertis. Les gens les plus heureux sont les gens qui sont conscients d'être en train d'accomplir leur mission. Ce sont les gens les plus heureux. Ce sont les gens qui sont conscients d'être en train d'accomplir leur mission. Il y a une harmonie entre ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Une vraie harmonie entre leur identité et leurs actions. Et quand on dit, quand les chrétiens disent, oui, il ne faut pas me culpabiliser, en réalité, personne ne les culpabilise. C'est qu'à l'intérieur, ils sont conscients qu'il y a une, une absence de connexion entre ce qu'ils disent être et ce qu'ils font. Et avant même que vous nous disiez quelque chose, quoi, pourquoi, tu me juges? Non, le problème n'est pas la personne, le problème c'est eux-mêmes. C'est important pour nous d'être en harmonie totale. Ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, ce à quoi nous sommes appelés et ce à quoi nous consacrons notre temps. Un des facteurs de bonheur, même chez les gens qui ne sont pas convertis, c'est le sentiment d'avoir bien utilisé leur temps. Quand les gens terminent une journée avec l'impression que d'avoir fait quelque chose de valable, d'avoir fait quelque chose qui les amène dans le sens de leur destinée, il y a une satisfaction et un sentiment de bonheur. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cela parce qu'ils sont constamment en train de consacrer leur temps à des choses qui ne sont pas en harmonie avec leur vraie identité. Et donc, quelque part, à l'intérieur, dans leur esprit, il y a cette espèce de gêne qui les empêche d'être bien. Et ils vont penser que oui, c'est parce qu'un tel m'a dit, ça n'a rien à voir avec un tel. Cherchez à vivre, à agir en harmonie avec votre identité. En harmonie avec votre identité d'enfant obéissant. En harmonie avec votre identité de soldat de Christ. En harmonie avec la vision que Dieu vous a donnée. Avec la mission que Dieu vous a donnée. En harmonie avec la mission de Dieu sur la terre. Prenez votre place dans l'œuvre de Dieu. Il y a une satisfaction extraordinaire qui vient lorsque de bon cœur, on participe à faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Et beaucoup de chrétiens cherchent à faire le moins possible dans le royaume de Dieu et se demandent pourquoi ils ne sont pas bien. Parce que dans votre esprit, il y a un malaise. Et ce malaise vient du fait que vous n'êtes pas en train d'agir en conformité avec votre vraie identité. Et ils vont courir de lieu en lieu parce que pendant un moment, ils sont bien et après, ça recommence. Et c'est toujours un tel et une telle et telle personne. Ce n'est personne. C'est parce qu'il y a une déconnexion entre les actions et votre vraie identité en tant qu'enfant de Dieu. Entre vos agissements et la vraie mission que Dieu vous a donnée sur la terre. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Qui veut vivre heureux? Moi, je veux vivre heureux. Et j'ai compris parce que pendant des années, j'étais très têtue, je voulais faire mon truc à moi. Au point où un serviteur de Dieu avait prophétisé sur moi, il a dit, « Ah, tu étais comme un cheval sauvage. You were like a wild horse. Dieu allait par là, toi, tu allais par là. » Mais maintenant, oui, maintenant, je le savais en plus, maintenant, Dieu t'a où il te veut. Quand il a dit, tu étais comme you were like a wild horse, I'm like, yep. I was like a wild horse. Comme un cheval sauvage. Dieu allait par là, toi allais par là. Et tout en étant à l'église. Alléluia! Zélé, j'aimais Jésus. Mais Dieu voulait ça et moi, je voulais ça. Glory to God. Il a fait ça. Oh non, mais. Et maintenant, he's got you where he wants you. Et il sait que maintenant, il va te conduire, il va aller là, tu vas aller là, il va dire ça, tu vas dire ça, il va faire ça, tu vas faire ça. It's beautiful. On t'aime avec Dieu. Dans quelque domaine d'action que ce soit, je vous souhaite d'être heureux. Je souhaite de vivre une vie où votre vie correspond, vos actions correspondent à votre identité, correspondent à votre mission, votre appel, aux objectifs que Dieu a définis pour votre vie. Que tout ce que vous accomplissez dans le matériel ne soit pas aux dépens du spirituel. Que ce que vous accomplissez dans le matériel soit le résultat de ce que vous êtes dans l'esprit, qu'il y ait une harmonie totale. Remercions le Seigneur. Glory to God. Je vous ai dit que ce message va révolutionner votre vie et je vous encourage vivement à l'écouter et à le réécouter. Je pense qu'il sera prêt à la fin du culte pour que vous puissiez l'écouter. Vous pouvez même le diviser en deux. Thank you, Lord. Écoutez une partie le matin et une partie le soir. Écoutez et prenez des notes et mettez en application. Glory to God. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Les difficultés ne sont immenses que lorsque nous perdons de vue la destination. Lorsque nous n'avons pas perdu de vue la destination, les difficultés n'ont pas le pouvoir de nous impressionner. Lorsque nous gardons en vue la destination et que nous gardons nos mains dans les mains du Maître, nous devenons comme ceux qui sont capables de rire dans l'adversité. Nous devenons comme ceux qui sont capables de prendre ce que le monde appelle des risques pour être agréable à Dieu. Comme Daniel avait pris un risque, entre guillemets, en allant à l'encontre du décret du roi. Et les choses ne se sont pas arrangées tout de suite, parce que parfois dans nos vies, nous faisons le choix de faire les choses selon Dieu, et tout de suite les problèmes commencent. Et pour Daniel, les problèmes ont commencé tout de suite. Mais ce n'était pas la fin. C'est Dieu qui a eu le dernier mot. C'est Dieu qui aura toujours le dernier mot dans votre vie.
Amen.
Quand vous choisissez de faire selon le cœur de Dieu et que les problèmes semblent s'entasser, n'oubliez jamais que c'est Dieu qui aura le dernier mot. N'oubliez jamais que ce que vous ne pouvez pas obtenir en Dieu ne vaut pas la peine d'être obtenu. Ce que vous ne pouvez pas acquérir en étant en phase et en symbiose avec Dieu n'a pas de valeur éternelle et ne vaut pas la peine d'être acquis. Nous bénissons notre Père. Est-ce que quelqu'un veut lever la voix et remercier le Seigneur ce matin? Est-ce que nous avons été amplement bénis, nourris, touchés, transformés? Dieu nous amène quelque part. Il y a une destination extraordinaire. Je vous demandais de dire ce matin, Seigneur, ouvre mes yeux. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends toujours pas. Ah, dites-le avec un cri.
Ouvre mes yeux.
Le royaume de Dieu souffre violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ah. Je vais vous encourager à faire ça à la maison. Vous savez, il y a un cri qui doit venir de nous. Nous ne faisons pas ça parce que nous n'avons pas la foi, parce que nous pensons que Dieu ne nous a pas entendus. Nous faisons cela parce que nous exprimons la profondeur de notre désir. Et il y a des moments où vous devez être là, ah, Lord! Jesus! Ah! Pas pour crier, mais parce que c'est plus fort que vous. Open my eyes. Open my eyes. Hallelujah. God. Glory to God. Hallelujah.